Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bienvenue dans Cœur de patrimoine, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Patrimoine. Vous en avez désormais l'habitude, on se retrouve chaque mercredi pour passer une petite heure ensemble et vous donner un maximum de conseils pour gérer au mieux votre épargne grâce à notre cercle d'experts qui se mobilisent pour vous. Alors au sommaire de ce 31e numéro de Cœur de patrimoine, on va commencer par parler de stratégie en termes d'épargne retraite. Vous ne pouvez pas ignorer toutes les interrogations qui tournent autour de ce thème actuellement. Et puis on plonge également dans le monde de la tech et du financement des entreprises de croissance pour un bilan de cette année 2024. Ensuite, un détour immobilier, on n'y échappe pas, pour vous proposer un exemple d'investissement dans le monde des SCPI. Et puis on causera technique patrimoniale en vous offrant une véritable fiche pédagogique sur la clause bénéficiaire, un point essentiel d'un contrat d'assurance vie. C'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et entrons tout de suite dans le vif du sujet de cette thématique retraite en accueillant Thibaut Cosnet. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine, directeur de l'offre épargne et patrimoniale du conservateur. Alors effectivement, le mot retraite, je pense qu'il est dans toutes les têtes, que ce soit pour abroger, pas abroger, reprendre, étendre, réduire, enfin bref. Et chacun peut se poser la question de se dire finalement, est-ce que j'aurai le droit à une retraite? À quoi elle ressemblera? Comment est-ce qu'il faut que je m'en occupe? C'est vrai qu'il y a énormément de défis. Ne serait-ce que démographiquement, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'il y aura assez d'actifs, suffisamment pas de retraités. Enfin, comment est-ce qu'on doit appréhender un petit peu tous les défis, toutes les questions qui se posent en termes de retraite?
Tout d'abord, on peut déjà rappeler qu'aujourd'hui, une pension moyenne de retraite, c'est, bon an, mal an, en moyenne, à peu près 2000 euros par mois. Mais effectivement, les enjeux démographiques, parmi toutes les incertitudes que vous avez citées, qu'elles soient politiques, économiques ou financières, la démographie, c'est relativement solide et on peut en tirer un certain nombre d'évolutions liées à l'allongement de la durée de la vie en France, puisque rappelons que, bon an, mal an, l'espérance de vie augmente de 3 mois par an depuis la Seconde Guerre mondiale, et qu'en plus, le taux de natalité en France a tendance à se réduire. Donc les évolutions structurelles du système de retraite, elles sont là et c'est bien de les poser. Vous parliez du ratio cotisant-retraité. Il n'a de cesse de se dégrader. On était à peu près à 2 cotisants pour un retraité il y a quelques années. Aujourd'hui, on est à 1,7. Et selon les chiffres du COR, on devrait avoir un taux cotisant-retraité qui devrait converger vers 1,3-1,2% à horizon 2050-2070. Donc il y a une vraie dégradation. Parallèlement, l'allongement de la durée de la vie fait qu'on passe de plus en plus de temps à la retraite. Nous étions à une durée de vie passée à la retraite aux alentours de 21-22 ans il y a quelques années. On devrait converger à 27 ans dans 2050-2070.
Plus de temps à la retraite et moins de cotisants.
Donc ce qui veut dire qu'effectivement, le taux de remplacement, a priori, sauf aménagement très majeur du système de retraite, devrait aller en se dégradant.
Alors justement, ce taux de remplacement, c'est important d'avoir ce mot en tête. Vous nous avez rappelé ce 2000 euros, qui est l'étiage moyen, on va dire. Ça veut dire quand même que les particuliers, ils doivent avoir en tête, appréhender le fait que le niveau de vie nécessairement va baisser à la retraite.
Oui, là aussi le rapport du COR du mois de juin est riche d'enseignements. On a un taux de remplacement pour un cadre à aujourd'hui à peu près de 53%. C'est-à-dire en passant de la belle vie active à l'heureuse vie de retraité, on a 100% de son temps libre, mais 53% de ses revenus. Ça c'est pour la génération qui part à la retraite actuellement.
Il faut acheter les articles de pêche avant.
Exactement, il faut être prévoyant. Pour la génération 1996, donc celles et ceux qui sont nés en 1996, le taux de remplacement devrait converger à 43%. C'est-à-dire qu'on devrait perdre 10% de taux de remplacement pour la génération qui est susceptible de prendre sa retraite donc, dans une trentaine d'années. Donc on voit que la tendance est effectivement lourde, structurelle et on a peu de chances d'avoir une inversion rapide de cette tendance.
Ça veut dire qu'il faut anticiper, ça veut dire que si on veut maintenir au maximum son train de vie, il va falloir s'en occuper soi-même.
Oui, a priori, il faut avoir, certes, un aménagement du système de retraite tel qu'il a été fait par le passé, mais on sent que ce n'est pas encore tout à fait stabilisé, mais il faut également se créer soi-même sa retraite par capitalisation avec de l'épargne qu'on affecte à destination de sa retraite pour essayer effectivement d'amoindrir cette perte de train de vie entre la vie active et la vie de retraité.
Et dans le champ de nos offres patrimoniales, aujourd'hui, on a un produit qui a été porté sur les fonds baptismaux il y a peu de temps, entre guillemets, 5 ans. C'est ce fameux PER, plan d'épargne retraite. Il a des avantages, il a des inconvénients, plus de l'un, plus de l'autre. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce que c'est que ce PER et ce qu'il faut en penser ?
Alors, effectivement, le PER a été lancé dans le cadre de la loi Pacte en 2019, donc il y a un peu plus de 5 ans. C'est un vrai succès, hein. Il y a 110 milliards de cotisations versées dans des PER, dont à peu près 2/3 via des transferts, pour 10 millions d'assurés, donc il y a quand même une vraie appropriation de cet outil. Les principaux avantages du PER, c'est que c'est un produit unique, contrairement dispositif d'épargne retraite qui préexistait où il y avait une galaxie, une myriade de différents produits. Le PER peut être unique et on peut y transférer l'intégralité des dispositifs dont on disposait précédemment.
Un plan pour gouverner tous les autres, pour les amateurs du Seigneur des Anneaux qui connaissent la formule.
C'est ça, avec différents compartiments, donc transférabilité, un dispositif unique. On a le choix de pouvoir faire sur l'épargne versée à titre individuel et de manière volontaire. On a le choix de sortir soit en rente, soit en capital, soit les deux, lors de la retraite, ce qui est une vraie nouveauté, là où précédemment, on avait plutôt des dispositifs qui fléchaient la rente. Et en plus, il y a un dispositif incitatif d'un point de vue fiscal, où les primes versées dans le PER permettent de réduire les revenus professionnels imposables dans un plafond de l'ordre de 35 000 euros cette année. Et on peut en plus utiliser les années antérieurement non affectées à l'épargne retraite, les 3 années antérieures pour les salariés, et éventuellement les plafonds non consommés par le conjoint. Donc, alors, de multiples avantages.
Ouais. Vous avez rappelé notamment les questions de simplification, etc. Et notamment qu'on avait un peu écarté, enfin pas écarté, mais diminué le côté impératif de la rente, etc. Et c'est vrai qu'on sait que les épargnants français, ils n'aiment pas beaucoup la rente et que ça n'avait jamais bien fonctionné dans l'Hexagone. Pour autant, certains pointent un manque de liquidité, ils ont un peu la trouille, en fait, disons les choses comme elles sont, de se retrouver bloqués, de ne pas avoir le choix.
Il faut effectivement assumer que le PER, c'est un produit tunnel. C'est un produit tunnel qui est fléché vers la retraite. Il y a quelques cas où on peut sortir par anticipation, mais c'est des cas d'accident de la vie ou d'acquisition de résidence principale, mais qui sont très limités. Donc, c'est effectivement, il faut avoir conscience de cet inconvénient-là. Il faut aussi avoir conscience du fait que l'incitation, la carotte fiscale, entrée via la réduction des revenus imposables, donc une économie d'impôt, elle sera récupérée en partie à la sortie puisque c'est un report d'imposition. Les primes versées à l'entrée seront réinjectées dans les revenus imposables, donc seront fiscalisées à la sortie. Donc il faut bien gérer le décalage. Et il faut aussi avoir conscience du fait que le PER, même un PER assurantiel, présente un petit différent par rapport à l'assurance vie en termes successoral, dans la mesure où pour les décès après 70 ans, l'épargne initialement versée dans le PER vient intégralement dans la masse successorale avec un abattement unique de 30 500 euros, plus-value incluse. Donc là, il y a quand même un décalage.
Je comprends dans votre propos qu'il y a d'autres produits que ce PER et on va y venir, mais juste un instant parce que vous nous avez rappelé tous les avantages fiscaux, entre guillemets, qui s'accroche, qui se greffe, etc., qui existe lié à ce PER. On est, je ne vais pas vous le cacher, en pleine disette budgétaire, on ne sait pas très bien où on va, l'État cherche de l'argent à peu près partout. Est-ce que vous pensez que c'est finalement c'est ce coût fiscal, parce que tout avantage consenti aux contribuables, c'est un manque de recettes pour Bercy. Est-ce que tout ça peut perdurer ou est-ce qu'à un moment, Bercy va dire « Tiens, on va essayer de tondre ce mouton-là » ?
Seul l'avenir nous le dira. Oui. En tout, une chose est certaine, c'est qu'il y a eu 2 rapports qui ont été récemment publiés, qui sont bonnes à avoir en tête quand on parle d'épargne retraite et de PER. Le premier rapport, c'est le rapport de la mission d'information sur la fiscalité de l'épargne retraite, portée par Charles de Courson, qui a identifié ce qu'on appelle une ligne de fuite dans le PER, à savoir qu'effectivement, quand on transmet de l'épargne via le PER, c'est-à-dire au décès, eh bien, il n'y a pas de report d'imposition à l'impôt sur le revenu. Et ce rapport proposait de corriger ce qui est identifié comme une anomalie. Donc, à voir ce que l'avenir nous réservera. Deuxième rapport, là, il est plus récent, c'est de la Cour des comptes au mois de novembre, qui considère qu'effectivement, ce dispositif PER est coûteux pour les finances publiques et propose de revoir un certain nombre de sujets, dont en particulier le report des trois années antérieures, possiblement déductible.
Le rattrapage sur le, si on n'a pas pensé à le faire au moment où on démarre.
Exactement. Donc c'est pas, on voit que c'est pas stabilisé. Effectivement, les débats fusent dans tous les sens. Donc soyons attentifs par rapport à ce sujet-là et justement gérons un équilibre probablement sain dans les stratégies patrimoniales, de ne pas tout miser sur le PER.
Alors justement, si on ne mise pas tout sur le PER, ça veut dire qu'il y a d'autres produits qui peuvent également adresser une stratégie d'épargne retraite, lesquels on met en avant ?
L'assurance vie, en premier temps, enfin, il y en a de multiples, hein, ça peut être l'assurance vie, le PEA, la tontine, l'immobilier, il peut y avoir plein de dispositifs qui permettent d'affecter une partie de ses ressources pendant la vie active à des revenus complémentaires à la retraite. L'assurance vie a quand même des avantages importants dans la mesure où certes il n'y a pas de dispositif incitatif fiscalement à l'entrée, mais en revanche il y a une maîtrise de la fiscalité à la sortie où pour les contrats de plus de 8 ans on a des abattements annuels de 4 600 € pour un célibataire ou 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune sur les intérêts, donc il y a quand même une vraie maîtrise des revenus sortie, qu'on peut aller générer. L'assurance vie est liquide, quoi qu'on en dise, malgré les idées préconçues, l'assurance vie est liquide avant 8 ans et on peut en tirer.
On rappelle, hein, ouais. L'assurance vie n'est pas bloquée au moment où on met de l'argent dedans pendant 8 ans. Hein. Ça n'est pas. Voilà, ça c'est un.
C'est bien de le rappeler, ça fait partie des idées.
Des fantasmes.
Reçues qui sont un peu dures à faire oublier. Et en plus, l'assurance vie, pour les sommes versées avant 70 ans, bénéficie d'une fiscalité successorale très avantageuse dans la mesure où. Je le rappelle, pour les sommes affectées à l'assurance vie versées avant 70 ans, on peut transmettre 152 500 € aux bénéficiaires qu'on a librement désignés par la clause bénéficiaire aux différents bénéficiaires qu'on a désignés. Et après, les 700 000 € suivants sont taxés à 20% et au-delà, c'est 31,25. Donc il y a quand même une vertu transmission et successorale qui est très importante de rappeler également dans l'assurance vie, puisque c'est l'équilibre d'une épargne retraite, de pouvoir avoir effectivement des revenus, mais également de prévoir ce qui se passe après, c'est-à-dire la prévoyance, protection du conjoint et également la transmission.
Allez, un petit teasing. En fin d'émission, on parlera justement de cette clause bénéficiaire et on vous expliquera vraiment toutes les ficelles pour l'utiliser au mieux parce que c'est vraiment un aspect essentiel de cette assurance vie. Dans votre panorama de produits, vous avez prononcé un mot que tout le monde ne connaît pas forcément, tontine, et c'est un peu votre produit chouchou, votre produit fétiche, fait finalement la spécificité du conservateur.
C'est effectivement par là que le conservateur s'est créé il y a 180 ans, en 1844. Néanmoins, ça fait partie d'une galaxie complète de produits. Au conservateur, on a évidemment le maximum de solutions à proposer à nos clients. Mais effectivement, on a cette spécificité qui s'appelle tontine.
Qu'est-ce que c'est que cette tontine du conservateur ?
Alors la tontine, c'est ce qu'on appelle une association collective d'épargne viagère, c'est la dénomination juridique. C'est une association d'épargnants qui collecte pendant une certaine durée de l'épargne librement investie par des épargnants, vous et moi. Au terme de cette association, le terme étant compris entre 10 et 25 ans à la création d'une tontine, on vient liquider la tontine entre les bénéficiaires des assurés survivants et ainsi pouvoir pouvoir générer de la rentabilité via cette opération tontinière. Donc la tontine, c'est une opération de moyen et de long terme. Au conservateur, on peut y adhérer pour une durée minimale de 8 ans jusqu'à 25 ans. Et cette tontine a de multiples utilités. L'épargne retraite, par exemple, en affectant une partie de son patrimoine à des différentes échéances, compris entre 8 et 25 ans, on peut se créer via ce qu'on appelle une tontine en cascade des revenus
Chaque
complémentaires.
Chaque année, on a une tontine qui arrive au bout, c'est
Exactement.
Ça
Exactement. Ainsi, permettent d'avoir une planification patrimoniale. On peut également avoir, grâce à la tontine, un outil de donation de son vivant, c'est-à-dire que, par exemple, des parents ou des grands-parents qui veulent donner, dans le cadre des abattements, de l'argent à leurs enfants ou à leurs petits-enfants peuvent utiliser la tontine comme étant un réceptacle de l'argent donné qui sera disponible dans 8 ans, 10 ans, 15 ans. Par exemple, pour les petits-enfants, c'est souvent très apprécié comme mécanique. Et donc, cette tontine, dans la spécificité de l'épargne retraite, permet justement de pouvoir utiliser ces différentes échéances en cascade pour se faire des revenus complémentaires, tout en sanctuarisant, j'aime bien ce terme-là, les avantages du PER pour éviter de sortir trop fortement et ainsi d'avoir un retour fiscal trop élevé, et en sanctuarisant également l'assurance vie dans une optique de transmission. Donc c'est l'équilibre de ces trois supports, par exemple, de ces trois opérations, qui permettent d'avoir une structuration patrimoniale solide.
Alors justement, pour terminer, essayons de donner quelques conseils à nos auditeurs. Quelle est la meilleure pratique selon vous justement, c'est de panacher l'ensemble des produits pour essayer d'obtenir sa retraite entre guillemets sur mesure. Et puis, comme on a parlé finalement de rente ou de capital, etc. Qu'est-ce qu'il faut privilégier l'un, oublier l'autre, ou au contraire là aussi peut-être panacher. Comment est-ce qu'on construit finalement la meilleure stratégie retraite quand on est un épargnant aujourd'hui?
A priori, il faut se faire accompagner parce que c'est quand même une stratégie assez complexe dans la mesure où il faut avoir une vision 360 degrés de son patrimoine. Il ne faut pas se focaliser juste sur la fiscalité ou sur la rentabilité économique. C'est vraiment ce qu'on appelle chez nous les quatre axes. Avoir une lecture économique, oui, sur la performance, la liquidité ou pas de ces placements. Une lecture fiscale, est-ce que j'ai un avantage à l'entrée? Comment je maîtrise mes revenus, la fiscalité de mes revenus à la sortie? Un axe civil sur la partie transmission, à qui c'est transmis, comment c'est transmis, dans quelle mesure, et la partie prévoyance qui permet, en cas d'accident de la vie, est-ce que mon conjoint et mes enfants sont protégés grâce à mon
épargne. Oublier la prévoyance.
Hein. Exactement. Et donc, c'est vrai que c'est un travail compliqué et c'est pour ça qu'il faut être capable d'adapter chaque structuration en fonction des objectifs personnels de chaque épargnant pour avoir du sur-mesure. Et par rapport à votre question entre rente et capital, là, c'est en fonction de l'appétence de chacun.
C'est ça.
Le capital permet d'avoir...
Il faut le sentir, il faut être à l'aise avec sa retraite.
Permet d'avoir une maîtrise de quand je vais récupérer des flux et de pouvoir, si je ne les consomme pas en totalité, pouvoir éventuellement les affecter à une autre opération patrimoniale. Ou la rente, d'ailleurs, permet peut-être... pour celles et ceux qui souhaitent affecter une partie de leur épargne dans un dispositif de rente, permet de couvrir le risque de dépendance, puisque là, on sait que c'est une rente viagère, donc qui s'éteindra au décès. Et donc, c'est aussi une dimension à prendre en considération, mais c'est vraiment du sur-mesure, quoi qu'il en soit.
Merci beaucoup, Thibault.
Merci, Cédric.
Thibault Cosnet, donc, pour Le Conservateur et ses stratégies d'épargne retraite à l'heure où ce mot retraite vient et revient dans le débat politique. Merci, Thibault, et à très bientôt. Nous, on poursuit. Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on quitte les problématiques retraites pour s'intéresser maintenant à la vie de la tech, du financement des entreprises de croissance. Sébastien Coinon est au rendez-vous. Bonjour Sébastien.
Bonjour Cédric.
Merci d'être là pour So We Found. Vous suivez de près, et on s'est déjà vu plusieurs fois dans Cœur de Patrimoine, toutes ces start-up de la tech via la plateforme et votre podcast Tech45 qu'on retrouve bien évidemment sur le net. Quel bilan de cette année 2024 on peut dresser de ce monde bouillonnant de la tech et du financement?
Oui, on va essayer de faire, si vous le voulez bien, Cédric, merci de m'y inviter, de m'y réinviter aujourd'hui, un petit panorama global, parce que j'ai ces deux postes d'observation, à la fois le crowdfunding à travers SoWeFund, et puis effectivement mon podcast que vous avez gentiment cité, pour, c'est vrai, donc faire un petit panorama de la tech dite non cotée, puisque ces startups-là ne sont pas encore au CAC 40 ou au Nasdaq. Bon, bah, évidemment, je vous rassure aussi parler de la French Tech plus proche de nous, mais j'ai discuté aussi avec quelques investisseurs récemment, donc les fameux VC, parisiens ou pas, évidemment les entrepreneurs, et puis le cabinet EY. Je salue notamment Franck Sebag, son associé, qui m'a donné quelques chiffres, donc que je vais vous partager dans une seconde. Ce qu'il faut savoir, donc pour la big picture, hein, c'est que les États-Unis, alors là, c'est reparti très fort, un peu à l'image du Nasdaq que vous commentez régulièrement. Donc, hausse facile, j'ai envie de dire, à deux chiffres, avec quasiment 200 milliards de dollars donc, qui ont été investis par les investisseurs privés et donc captés par ces startups de la tech, pour faire large, même s'il y a plein évidemment de secteurs, vous vous en doutez, très différents là-dedans. En Europe, là, on va faire nous le quart de ça, donc une petite cinquantaine de milliards, donc c'est quand même pas mal, mais bon, vous voyez qu'on on fait pas le poids. Et surtout, ça baisse, donc ça sera moins important quand on va arrêter les compteurs là au 31 décembre 24, qu'il y a pile un an. Et ça, c'est pas bon, parce que généralement, ce qu'on regarde souvent, ouais, c'est la dérivée courbe, seconde, ouais. Et malheureusement, ça baisse, quoi.
Ça, c'est la big picture, comme vous dites. Et si on zoome un peu chez nous, là, en France, comment ça se passe?
Alors, c'est là où ça se gâte encore plus, effectivement. Donc, le S1, jusque-là, tout allait bien. On repartait enfin, donc avec des fonds en hausse. Si on regardait tour par tour, levée de fonds après levée de fonds. Et puis, en fait, dès après l'été, vous voyez me dire,
Patatras, vous voulez dire une dissolution, un truc comme ça.
Exactement, c'est le contexte qui n'a pas aidé. Donc, troisième trimestre, et ça se confirme effectivement cette fin d'année, donc avec le quatrième trimestre, beaucoup d'attentisme. Et évidemment, les startups, la French Tech, la Startup Nation, comme on disait il y a quelques années, n'est pas hors sol. Hein, donc, elle a été rattrapée par la patrouille. On va grosso modo retomber sous les 8 milliards d'euros, donc levés par les startups françaises, hein, qui sont, on va dire, entre 10 et 15 000. 8 milliards, pour vous donner un ordre d'idée, c'était respectivement 11 et 13 milliards en 2021 et 2022. Ouais. Donc, alors après, c'était des années exceptionnelles, un petit peu euphoriques, la post-Covid. Si vous revenez pré-Covid, donc 2019 et 2020, on était autour de 5 milliards. Donc finalement,
donc on reste 7, en croissance par rapport...
C'est pas mal, exactement. Les années exceptionnelles, c'est, ouais. On est revenu dans une forme de normalité, mais il n'y a plus de croissance. Et même par rapport à 2023, où on pensait que c'était une année tampon, bah, on arrive encore un petit peu à se tasser. Effectivement, c'est le contexte politico-économique qui a un peu tout remis en cause et gelé ou décalé depuis quasiment 6 mois maintenant.
Alors, on vous avait dit la tech. Alors effectivement, on dit voilà, la tech, etc. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus adressés que d'autres? Enfin voilà, est-ce qu'on arrive à faire un portrait plus fin de ce qui plaît, de ce qui plaît peut-être moins, de ce qui plaît plus?
Clairement. L'IT, donc l'informatique au sens large, on va retrouver évidemment les LLM type Mistral, hein, concurrent de ChatGPT OpenAI, donc tout ce qui est logiciel aussi, évidemment le grand retour du SaaS, donc les logiciels où on paye 10, 20, 30, 40, 50 euros par mois, beaucoup plus évidemment pour le B2B. Là, ça repart fort. Merci l'IA, on va y revenir, mais c'est du plus 35% de fonds levés. Ensuite, vous avez les green tech, donc tout ce qui est efficience énergétique. Là, on en parle souvent aussi sur votre plateau, climat, matériaux innovants, etc. Là, c'est catégorie numéro 2, mais ça baisse. Là, on est à moins 40%. Et derrière les sciences de la vie, on va dire tout ce qui est santé, biotech, medtech en général, là, pareil, c'est catégorie 3, mais c'est aussi en fort repli. Pour faire gros, c'est la big picture. Ouais. Je vous donne pas tous les chiffres, mais voilà.
Est-ce qu'il y en a qu'on peut particulièrement distinguer? Je ne sais pas, est-ce que cette année, par exemple, il y a une ou les plus grosses, les quelques levées de fonds, que, bah, les noms qu'il va falloir retenir sur le cru 2024, on va dire, Sébastien?
Évidemment, bah, je vous ai parlé d'IA, Mistral, on l'a cité, on peut la reciter, c'est plus de 400 millions levés, Electra, donc les recharges pour batteries et pour voitures électriques, l'appareil, c'est en centaines de millions. Pigment, là, c'est justement SaaS, donc logiciel, on est à plus de 150, 160 millions de mémoire, donc ça, c'est des grosses levées. Pour autant, on peut y revenir aussi, il y a eu de la casse, d'une manière ou d'une autre, économique, sociale, etc. Je ne sais pas si c'est un volet qui vous intéresse, Cédric.
Si, si, tout à fait, bon. Ouais, bien sûr. C'est aussi sympathique de, enfin, entre guillemets, de savoir quel est l'avis de ce secteur.
On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis. Clairement, l'abondance est derrière nous. Ça, c'est très, très clair. L'argent ne coule plus à flot. Donc, pour les startups, encore une fois, qui ne sont pas hors sol, comme tout le reste de l'économie, bah, les clients sont plus difficiles à trouver depuis justement l'instabilité qu'on évoquait. Les contrats sont plus compliqués et plus longs à signer. Et puis, il y a les fameux plans sociaux, là encore, comme dans l'économie classique, j'ai envie de dire. Pas mal de boîtes, je pense à la HRTech, une boîte, je ne sais pas si, si ça vous parle, qui s'appelle PayFit, donc c'est les bulletins de salaire digitalisés. Ça va être Spendesk, la gestion des dépenses. Et bah, elles ont emboîté le pas à des noms encore plus connus comme Mano Mano, comme Back Market, qui reconditionne nos smartphones, bah, toutes ces boîtes, depuis 12-18 mois, elles se sont séparées de 10, 20, voire 30% de leur masse salariale, ouais. Donc c'est considérable. Et puis autre exemple qui est pas jojo, c'est Insect, là, je sais pas si ça vous parle, si, ça si, a si, quasiment si. 15 ans, c'est, bah, c'est production d'insectes pour les animaux,
c'est ça.
Bah, pour les animaux d'élevage, pour les plantes, mais aussi pour vous et moi, donc pour les humains.
Et bah, moi, là, je ne mange pas d'insectes. Hein.
Pas encore, vous allez venir. C'était une des plus grosses levées de fonds en 2023, 160 millions, 2023, Jean qui rit, 2024, Jean qui pleure. Là, on a eu, il y a quelques semaines, pour Insect, un placement sous procédure de sauvegarde. Donc, évidemment, ouais. Ça va beaucoup moins bien. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le principe de la startup. Hein. Donc, très souvent, ça va être plus compliqué que prévu, voire ça va se terminer.
Bon, du coup, vous nous avez dit, Sébastien Coinon, qu'il y avait ce coup de frein, notamment en Europe, plus singulièrement peut-être en France, etc. Mais qu'on restait sur un étiage qui, si on acceptait les années d'or post-Covid, n'était pas non plus catastrophique. Du coup, devant nous, 2025, il faut se dire quoi? Ça va continuer à tanguer ou on peut espérer une reprise de cap peut-être plus... Bah. Pas tranquille, mais...
Je reviendrai vous en parler en janvier, ça nous fera une petite chronique. mais on peut déjà prendre un petit peu d'avance parce que justement EY, que je vous citais en intro, a commencé à interroger les entrepreneurs en disant bah, tiens, qu'est-ce que vous allez regarder là, dans les prochains mois, les prochains trimestres. Il y a trois réponses qui arrivent. Un, l'argent. Donc on va chercher à se refinancer. Encore une fois, c'est le principe des startups qui très souvent, quasiment 9 fois sur 10, un peu moins, j'espère aujourd'hui, parce que la mode est plus à la rentabilité depuis 2 ans, on va dire. Mais un, des fonds, trouver de l'argent, et notamment via des levées de fonds ou de la dette, quand on peut. Deux, le business, la top line, le chiffre d'affaires, plus de clients, des nouveaux clients. Et trois, le recrutement, parce que quand ça va, ou quand ça va pas, parfois, on peut être freiné, effectivement, parce qu'on trouve pas les bonnes personnes sur les bons postes, souvent les mêmes, hein, développeurs, IT, experts, IA, data, etc. Et puis, il y a des signaux intéressants. Justement, si on revient, on peut reboucler là-dessus sur l'intelligence artificielle, parce qu'on a vu ces 12-18 derniers mois, des boîtes se développer. On a beaucoup parlé de Mistral, mais il y a eu des boîtes quasiment américaines, en tout cas non françaises, qui sont venues se baser ici, à Paris. Je pense à Poolside, une IA pour le développement là, de logiciels et d'applications qui libère bah, le potentiel des développeurs. Ils ont décidé de faire ça à Paris. Pourtant, les investisseurs, les créateurs, enfin, les fondateurs ne sont pas français. FlexAI, pareil, c'est deux ex-NVIDIA, un Tunisien et un Indien de la Silicon Valley. Et bah, c'est à Paris qu'ils font ça. C'est quand même pas mal, non?
C'est
encourageant. Il y a de la lumière.
Ça bouge encore.
Voilà, ça bouge encore.
Bon, bah, écoutez, on continuera bien évidemment à suivre cette tech et ce financement grâce à votre regard chez SoWeFund. Sébastien Coinon, bonne fête de fin d'année.
Merci Cédric, vous aussi.
Et à bientôt. Bientôt. Tout de suite, on continue bien évidemment notre voyage dans votre patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on va parler maintenant immobilier. Je vous l'annonçais dans le sommaire de Cœur de patrimoine. Un petit détour dans le monde des SCPI qui font partie de ces actifs que vous appréciez particulièrement. Et pour ce faire, on accueille le directeur de l'épargne de Sofidy, Nicolas Vandenen. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous et d'avoir répondu à l'invitation de Radio Patrimoine. On va s'intéresser notamment à un exemple, à une SCPI, mais avant, je résiste pas quand même à l'envi d'avoir le regard de Sofidy sur cette année 2024 pour les SCPI parce que ça a quand même été parfois un petit peu mouvementé. Quel bilan on tire de 2024 dans ce monde des sociétés civiles de placement immobilier?
Alors effectivement, une année charnière, une année particulière que je me permettrai de qualifier d'une année de transition sur fond de deux grands sujets principaux. Un premier sujet dans la continuité de 2023 et de fin 2022, un sujet tourné vers les valorisations, un sujet qui a animé beaucoup de choses. On a vu certains véhicules, certaines SCPI acter encore de nouvelles dévalorisations. Donc, avec ça, la grande question de où est le point d'atterrissage. Donc, un premier sujet qui a beaucoup animé le marché des SCPI. Et puis, en rebond, un deuxième grand sujet, ou plutôt un constat, c'est un marché à deux vitesses, effectivement, sur les volumes de collecte. On a constaté qu'il y avait certains véhicules plutôt récents qui ont continué à entretenir des niveaux de collecte assez importants, et puis d'autres véhicules un peu plus à la peine. Donc un vrai marché qui s'est dissocié. Donc l'enjeu, c'était de faire partie du bon wagon.
Justement, ça c'est un constat global. Et chez Sofidy, vous êtes, on va dire, dans le train moyen de ce marché ou les choses sont un peu différentes?
Alors on a pour le coup plutôt le sentiment d'avoir fait une année pas si mal que ça, dans le sens où sur notre gamme de véhicules plutôt anciens, puisque je rappelle que Sofidy, ça fait pratiquement 40 ans qu'on évolue dans l'univers et qu'on gère des SCPI, donc des véhicules anciens qui ont réussi à maintenir des niveaux de collecte. Et on fait encore partie des grands acteurs collecteurs, même si on n'est plus forcément, en tout cas sur cette année-là, dans le très haut du tableau, mais on a réussi à tenir cette collecte sur des véhicules plus récents, là, des niveaux de collecte qui se sont bien maintenus et qui permettent clairement à ces véhicules, à ces SCPI, à ces SCPI que nous gérons, de rester dans une position opportuniste, d'être à l'attaque sur un marché de l'investissement.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce monde de la SCPI qui a beaucoup fait parler de lui, effectivement, il y a un petit peu ce combat ancien contre jeune, ancienne ou ancien produit contre nouveau ou jeune produit. Et il y a énormément de dynamisme et de lancement de SCPI. Vous échappez pas à la règle puisque en début d'année, vous avez lancé Sofidy Dynamic. Pourquoi ce choix d'avoir lancé une nouvelle SCPI pays
en initiant, on va dire, 2024.
Alors, première précision importante, c'est qu'on ne s'inscrit absolument pas dans ce que certains, effectivement, veulent amener sur la place, ce combat entre les jeunes et les anciennes. Les jeunes ont des atouts que n'ont pas les anciennes, et les anciennes ont des atouts que les jeunes n'ont pas.
D'accord, donc il n'y a pas de ségrégation.
Pas de ségrégation, il faut véritablement raisonner dans une logique globale d'allocation, puisque c'est davantage comme ça qu'aujourd'hui que la SCPI est utilisée à aller travailler. Pour autant, on a fait le constat qu'il y avait un momentum de marché très opportun, avec un marché qui avait corrigé. Effectivement, des véhicules qui sont tout récents vont se vouloir beaucoup plus agiles dans ce contexte-là par rapport à d'autres véhicules. Donc ça, c'était une raison principale. Et la deuxième, c'était de prendre du recul sur la gamme existante et de se rendre compte qu'il manquait quelque chose dans cette gamme. Un véhicule un peu plus dynamique pour aller chercher une typologie d'actifs immobiliers qu'on ne travaillait pas. Et ça a donné, effectivement, dans un premier temps, matière à réflexion et ça a donné lieu au lancement fin 2023, début 2024 de la SCPI Sophie Dynamique.
Alors, je vous écoute et je suis désolé, je vais presque poser une question de profane, mais je me dis finalement... Vous avez des SCPI, vous gérez depuis 40 ans des SCPI. Qu'est-ce qui va différencier cette SCPI d'une autre SCPI, qu'elle soit plus ancienne ou moins ancienne dans votre gamme? En clair, voilà, qu'est-ce qui la distingue et pourquoi pas avoir utilisé un ancien véhicule pour s'adapter à la nouvelle donne de marché?
Je vous remercie de poser cette question, Cédric, puisqu'elle est fondamentale, effectivement, dans le sens où, je le soulignais il y a quelques instants, on va s'adresser à une typologie d'actifs et plus particulièrement à un couple risque-rendement qu'on n'a pas travaillé historiquement chez Sofidy. Toutes nos anciennes SCPI et les politiques d'investissement de nos SCPI historiques se tournaient vers des couples risque-rendement plutôt très patrimoniaux. Donc, aller chercher de la centralité, prendre... pas forcément énormément de risques. Quand on s'est comparé effectivement au véhicule qui était très dynamique en termes de collecte, qui était assez récent, qui avait été lancé, eh bien on s'est rendu compte que ces véhicules allaient travailler une typologie d'actifs immobiliers beaucoup plus dynamique, donc un couple risque-rendement sur la base duquel on fait un pas de côté, on va chercher peut-être être moins exigeant en termes de centralité, aller chercher peut-être des contreparties un tout petit peu plus risquées, mais la contrepartie de cela, c'est d'aller chercher davantage de rendement. Et finalement, c'était aussi l'occasion de rappeler que dans cet univers des SCPI, eh bien, c'est pas tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a effectivement des véhicules qui vont être en capacité de délivrer plus de rendement, mais parce qu'ils vont prendre un peu plus de risques. Et c'est effectivement
le rendement supérieur va souvent avec un peu plus de risques, quelle que soit la typologie d'actifs dans une gestion de patrimoine.
Exactement.
Qui se respecte.
Hein. Ça va de soi, mais on avait l'impression que c'était pas forcément hyper lisible dans le marché de la SCPI.
Initiez-nous tout de même un petit peu, parce que là vous nous dites une typologie d'actifs, etc. Mais on va trouver quoi concrètement dans ces actifs?
Alors, concrètement, il ne va pas y avoir de grandes surprises, dans le sens où on va trouver, et notamment dans Sophie Dynamique qui se veut diversifier, des classes d'actifs immobiliers qu'on trouve par ailleurs, du commerce, du bureau un petit peu, de manière très opportuniste, des locaux d'activité, des locaux d'hôtellerie. On a une capacité à intervenir sur tous ces marchés-là et également intervenir sur des marchés français, mais également européens. En revanche, là où je vous expliquais qu'on cherchait historiquement beaucoup de centralité, eh bien, on va faire un pas de côté, aller dans des villes, sur des marchés où on ne serait pas allé. Typiquement, je vais citer un exemple concret. Nous sommes allés acheter un petit centre commercial dans la banlieue de Belfort. C'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas forcément regardé, mais qui convenait particulièrement bien, qui fait justement ce pas de côté pour cette SCPI.
Et alors, ça donne quoi en termes d'investissement aujourd'hui et d'ambition pour les mois à venir? Parce que j'imagine que quand on la lance début 2024, c'est pas pour la clôturer fin 2024. Donc
absolument pas. Effectivement, c'est une SCPI qui, au terme de sa première année, son premier exercice civil, on va dire, va avoir déjà embarqué 5 investissements. Alors, notamment des tickets dans des club deals qu'on a structurés chez Sofidy de manière assez opportuniste, orientée sur du commerce, mais également 3 investissements en direct. Donc là aussi, toujours sur du commerce, c'est une matière qu'on affectionne historiquement plutôt bien, qu'on la travaille bien chez Sofidy, donc on s'est orienté vers cela, mais demain on va aller vers de la diversification. Donc c'est des actifs qui s'inscrivent sur des niveaux de rendement assez intéressants, hein. On est au-dessus des 8% en termes de taux de rendement moyen acte en main.
D'accord.
Voilà. Et ça, c'est effectivement finalement tout ce qui va constituer le premier moteur, le moteur de performance de cette SCPI pour aborder 2025, j'ai envie de dire, pleinement lancé.
Et avec une volonté de rendement, de performance qui restera sur ces niveaux-là ?
Alors, la performance cible, taux de rendement cible de la SCPI, en tout cas l'objectif, il est de 7% brut de fiscalité.
D'accord.
C'était un souhait important de notre part, hein, de l'inscrire dans la documentation pour être clair, pour apporter, une fois encore, de la lisibilité sur ce fameux couple risque-rendement. Et on devrait, dans les premières années, se donner la capacité d'être... plus qu'au rendez-vous, hein, puisqu'on a le sentiment, en tout cas au terme de cette première année, qu'on est en capacité d'aller chercher un peu plus que cet objectif cible, ce rendement cible. Mais pour autant, voilà, il faut garder en tête que l'horizon d'investissement est long et voilà, on reste sur ce taux de rendement cible de 7%.
Merci beaucoup Nicolas Van Den Hen, donc pour l'épargne de Sofidy, donc, et ce focus sur Sofidy Dynamique à l'occasion de ce bilan 2024 des SCPI. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Patrimoine.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
C'est une véritable fiche pédagogique à usage patrimonial qu'on vous propose désormais. Je vous ai un petit peu teasé le rendez-vous tout à l'heure avec Thibaut Cosnet du Conservateur. On va parler d'assurance vie et notamment de la clause bénéficiaire. Et pour ce faire, c'est Virgile Delporte qui est avec nous. Bonjour Virgile.
Bonjour Cédric.
Merci de nous avoir rejoints, cofondateur de Testamento. Et vous vous êtes penché sur cette clause bénéficiaire histoire de vraiment tout nous dire. Tout ce qu'il faut savoir sur cet outil, parce qu'en fait, c'est un outil niché au cœur de l'assurance-vie. D'abord, est-ce qu'on peut brièvement rappeler justement ce qu'est cette clause bénéficiaire et pourquoi j'insiste en disant que c'est un élément central dans sa vie patrimoniale?
Oui, donc déjà, on peut rappeler effectivement que la clause bénéficiaire, on en a dans beaucoup de contrats. La clause, ça détermine à qui vont les capitaux si on décède. Tout simplement. Alors, ça couvre beaucoup de contrats. On parle d'assurance vie, bien sûr, mais on pense aussi aux contrats de prévoyance individuelle, collectif, au plan d'épargne retraite, mais aussi aux contrats obsèques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de champs d'application.
Il n'y a pas que l'assurance vie qui a de la clause bénéficiaire. Alors, bien souvent, quand on souscrit un contrat, puisque là, on parle de l'assurance vie, il y a tout un tas de process qui se mettent en marche. On remplit des tas de choses et on est généralement incité, je vais dire comme ça en mettant quelques guillemets, à cocher la case devant une rédaction type de la clause bénéficiaire. Et ça, c'est pas forcément le meilleur choix qu'on a à faire. Quels sont les risques finalement de ce choix par défaut?
Alors déjà, on peut rappeler ce qu'est le choix par défaut. Le choix par défaut, une clause bénéficiaire standard, ça dit mon patrimoine ira à mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers légaux. Une fois qu'on a dit ça, que peuvent être les problèmes? Il y en a plein. La première chose, c'est que la définition du conjoint, elle peut varier d'un contrat à l'autre. Historiquement, quand il n'existait pas le PACS, ça fait une vingtaine d'années que ça existe, le conjoint, c'était uniquement marié. Un conjoint, légalement, c'est marié. Donc si on dit mon conjoint et qu'on vit en couple, en concubinage, on oublie, le concubin,
ça passe à l'as,
ça part directement aux enfants, s'il y en a. Donc la première chose, c'est la définition du conjoint. La deuxième chose, c'est finalement, est-ce que fiscalement, c'est la meilleure chose que de transmettre à son conjoint, si on est une famille installée, bien sûr, quand on est jeune et qu'on ouvre son contrat, on va protéger son conjoint, mais si on est plus âgé, que les enfants sont grands, on va peut-être plutôt se dire, s'il arrive quelque chose, le patrimoine devrait peut-être aller à mes enfants parce que ça pourrait les aider. Et autrement, la clause bénéficiaire d'un contrat, d'assurance-vie notamment, c'est exonérer droit de succession. Le conjoint, il est exonéré droit de succession aussi. Donc si on veut exonérer droit de succession à quelqu'un qui est déjà exonéré, oui, on ne gagne pas vraiment de
points. C'est saturé bretelle et ça ne
oui,
pas
Oui, et on a perdu un petit impact. Un troisième exemple, c'est peut-être finalement dans nos familles d'aujourd'hui, qui sont nos enfants? Nos enfants, si on dit, moi j'ai trois enfants, y a peut-être un enfant d'union précédente, de mon conjoint, de ma conjointe, elle avait un enfant, elle a un enfant au moment où on se met en couple, on a deux enfants ensemble, et puis cet enfant, moi, je le considère comme le mien, et bien si je mets mes enfants mes héritiers légaux, ce troisième enfant, il n'existe pas. Et si je veux le protéger, il va bien falloir faire quelque chose et déterminer une clause un peu différente.
Parce que si les choses ne sont pas bien faites, soit ça va aux mauvaises personnes, soit ça n'y va pas du tout, parce que ça peut se produire aussi, et c'est un mot qu'on entend en termes d'assurance-vie, c'est la déshérence. qu'est-ce que c'est exactement cette déshérence et en quoi c'est un problème ?
Alors la déshérence déjà c'est un problème beaucoup plus large même que l'assurance vie, on estime à plusieurs milliards, 6 milliards, 12 milliards, il y a des chiffres qui varient beaucoup, donc c'est beaucoup d'argent. Et si on parle de la déshérence au sens large, et on va même prendre un exemple, il y a une maison abandonnée en face de chez vous, dont vous n'avez jamais vu quiconque se pointer dans les 20 dernières années, parce que finalement personne ne sait à qui appartient cette maison. La déshérence c'est un gros problème, c'est un problème
donc
de mobilité.
Ouais. Plus d'une dizaine de milliards d'euros
qui dorment.
Dormiraient dans les limbes.
Exactement, dont on ne sait pas forcément à qui ça appartient. Donc la déshérence, c'est dans la partie assurance vie, c'est finalement, on sait qu'il y a des bénéficiaires. Alors les enfants, mais qui sont les enfants en fait ? Je ne sais pas. Donc si je suis l'assureur, moi je n'ai pas eu l'occasion forcément de chercher, et donc les capitaux sont restés un petit peu bloqués là. Et puis effectivement, il y a une réglementation qui est venue pointer un peu le bout de son nez en disant bon, et ces capitaux en déshérence là, à qui ils appartiennent, et retrouvez-nous les bénéficiaires.
Comment est-ce qu'on peut inciter finalement un souscripteur d'abord à bien traiter à l'origine sa clause ? En clair, ne pas
cocher la case.
Prendre le temps de se dire non, je suis désolé, monsieur l'assureur, mais je ne vais pas bêtement cocher la case. Première chose. Et puis derrière, parce que vous l'avez dit, la vie évolue, on n'a pas les mêmes priorités, les mêmes exigences, les mêmes besoins quand on éventuellement souscrit son contrat à 20 ans que quand on en a 50 et tout au long de sa vie. Comment est-ce qu'on peut inciter chacun à vivre avec sa clause bénéficiaire?
Ouais, déjà, il faut rappeler, on est ici aussi pour le dire, c'est que c'est vous qui êtes décideur, en fait, de ce que vous voulez dans votre clause bénéficiaire. C'est vous en tant qu'assuré. Donc, en tant qu'assuré, je dois être capable de dire au conseiller, s'il me dit ça, on verra ça plus tard. Non, on va le voir maintenant parce que c'est important pour moi. Si je viens de verser 50 ou 100 000 euros dans un capital et que je décède le lendemain et qu'on verra plus tard et qu'on n'a pas vu un an plus tard, c'est trop tard. Donc, vraiment insister sur le fait que c'est vous qui décidez. Individuellement, à qui vont ces capitaux, et vous avez le droit de demander ce que vous voulez. Évidemment, dans les règles de droit, hein, vous ne pouvez pas désigner un chien, un chat dans vos bénéficiaires.
On n'est pas au Japon.
On n'est pas au Japon, mais on va pouvoir décider vraiment de son vivant qui on souhaite, et on va pouvoir le décider tout au long de sa vie. Quand on ouvre son contrat à 30 ans, éventuellement cette clause standard nous convient, 10 ans, 20 ans plus tard, peut-être que justement on s'est remarié, ou on avait mis quelqu'un nominativement, et bien finalement on n'est plus avec cette personne. Alors il faut absolument penser à ça, et donc c'est penser systématiquement, quand on réfléchit un peu à la transmission, en fait, qui j'ai déjà désigné ? Si je suis salarié d'un grand groupe, je suis cadre dirigeant, et que j'ai un capital d'essai qui va à ma petite amie d'il y a 15 ans quand je suis rentré dans le groupe, c'est un peu dommage, ouais. Quoi. C'est y penser systématiquement.
Donc on relit régulièrement ça ou ces clauses bénéficiaires, parce qu'en plus on n'est pas obligé de mettre la même sur tous nos contrats,
hein.
Et on l'a fait évoluer au rythme de notre vie. C'est-à-dire que les conseillers aussi, qu'ils soient conseillers chez son assureur ou conseillers en gestion de patrimoine, etc., c'est à eux aussi de challenger finalement leurs clients.
Ouais, il faut qu'ils les embarquent en fait. Alors si on regarde un petit peu, on vous disait en tout début d'entretien, souvent on coche la case standard. Quand on est le conseiller, on n'est pas très à l'aise. On se dit, si on repasse 10 ou 15 minutes là-dessus, est-ce que je vais pas terminer mon contrat et le client va me dire, on se reverra dans 2 mois, et j'ai pas terminé ma souscription. Donc en tant que conseiller, je suis pas forcément à l'aise. Donc comment devenir à l'aise avec ça? C'est être capable d'en parler, c'est de pouvoir poser les questions au client. Si vous arrivez à un truc, à qui vont ces capitaux? Et rassurez-vous, on va le faire ensemble, ça va prendre 5 minutes. Et c'est ce côté, finalement, outil vers lequel nous, on s'est orienté, c'est de construire des outils qui permettent aux conseillers d'être super à l'aise avec le sujet.
Justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de prendre sa plus belle plume et de tout écrire, et on est aidé par le digital, c'est ça ?
Oui, contrairement au testament. Donc, nos testamentos, on a inventé le testament en ligne il y a un peu plus de 10 ans maintenant. La clause bénéficiaire, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà un document dactylographié. Donc, on n'a pas besoin de l'écrire à la main. Donc, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, on va pouvoir construire cette clause directement avec son conseiller dans un parcours digital hyper fluide, hyper simple. Le conseiller va nous demander ce que l'on souhaite, et puis le parcours va se dérouler sous nos yeux. Et à la fin, on va générer un document qu'on va signer électroniquement ou qui va être inséré à l'alias de souscription sans qu'on ait le jargon juridique obligatoire. On n'a pas un cours de droit à suivre avant tout ça.
Donc il y a un avantage pour tout le monde, et pour l'assuré qui sera mieux servi, et pour l'assureur, entre guillemets, le conseiller qui est bien accompagné.
Oui, et en fait, nous, on a découvert ça il y a 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans, même 6 ans. On est rentré dans un accélérateur qui s'appelle French AssureTech à Niort, et un des dirigeants de la Massif était venu me voir en me disant « Ce que vous avez fait, ça, ce serait génial pour moi parce parce que mes clients qui veulent, ils m'envoient des courriers pour demander à modifier leur clause bénéficiaire, ils m'envoient des courriers papier, j'arrive pas à le lire, je mets 2 mois à leur répondre, c'est compliqué comme expérience. Et ben si on avait un outil digital, on gagnerait du temps. Donc on a construit ou co-construit avec la Massif une solution qu'on a d'abord mis à disposition des conseillers, et puis 6 mois plus tard, dans les espaces clients, pour que le client en autonomie soit capable de modifier sa clause aussi.
On sait que récemment, il y a eu toute une volonté des pouvoirs publics, parfois de simplifier, d'alléger, de voilà toutes les procédures un petit peu économiques. Enfin, je pense notamment à la loi Pacte, etc. Ça a eu une incidence sur cette fameuse clause bénéficiaire?
Ouais, il y a eu plusieurs actes qui ont été structurants dans les 10 dernières années. La première, c'est la loi Eckert, qui a imposé justement de s'attaquer au sujet de la déshérence. Et puis la loi Pacte et des résolutions ACPR sont tombées progressivement dans le temps, encore une le 21 novembre dernier, qui indique spécifiquement que la clause bénéficiaire, il faut la voir avec son client dans le lot devoir de conseil. Il faut pouvoir tous les 2 ans, pour les distributeurs, ceux qui sont en face avec le client, et puis avec les assureurs tous les 4 ans, il va falloir prendre le temps d'observer, de vérifier si la clause elle est toujours adaptée aux besoins du client. Donc oui, la réglementation force un peu là-dessus. Parfois, ça tord un peu le bras des assureurs qui ont plein de choses à faire. La réglementation, elle est lourde. Mais pour nous, ça nous semble être un enjeu vraiment important.
Bon, Virgile Delporte, pour terminer, j'ai 2 petites questions vraiment pratico-pratiques. Déjà, quel conseil vous donneriez pour bien choisir sa clause bénéficiaire quand on est... on va dire dans une situation qui est pas, j'ai pas envie de dire normale, mais voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire, famille recomposée, concubin, enfin voilà, une fois qu'on n'est pas dans le standard.
Alors, il y a vraiment plein de clauses hyper intéressantes. Donc la première chose, c'est de demander à son conseiller, d'aller voir son conseiller et de vérifier qu'il est équipé d'une technologie comme celle de Testamento. Il n'y en a qu'une, donc qu'il demande Testamento directement, ça sera plus efficace. Et puis, dans les clauses un petit peu sympas, activables, la clause démembrée est extraordinaire. On donne l'usufruit au conjoint et le capital principal aux enfants, et au moment où le conjoint décède, les enfants récupèrent le reste. Ouais, donc ça, bien. C'est des choses hyper intéressantes. Et une autre clause qui est proche, enfin, chère à Jean Aulagnier, qui a un peu le pape de tout ça. Clause à tiroir, vous m'avez vu venir. Donc la clause à tiroir, on dit au conjoint, en fait, au moment où je décède, bah, tu choisis entre 0 et 100% en fonction de tes besoins. Et puis, selon ça, les enfants vont récupérer le reste.
Je suis ravi que vous évoquiez cette clause, entre guillemets, dite Aulagnier, parce qu'elle fait beaucoup parler d'elle, et bien souvent, armé de quelques conseils que j'ai eu l'honneur parfois de défendre, j'ai eu des auditeurs qui m'ont dit « Ouais, mais moi je suis arrivé avec votre clause Aulagnier là, et mon assureur m'a dit « Moi ça va pas, ça rentre pas, ça chez moi ça rentre pas ». Comment est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là si l'assureur nous dit « Moi ça chez moi ça marche pas ».
Alors c'est vrai que ça peut être un débat, c'est pas toujours évident.
Et c'est l'assureur qui freine là dans ces cas-là.
L'assureur peut freiner. Alors si par hasard on a ce contexte-là, on peut tout simplement déposer sa clause chez un notaire. Et donc on va la sanctuariser chez un notaire, et on va dire à l'assureur la clause elle est chez mon notaire, et donc on peut y mettre ce que l'on veut avec les conseils qui vont bien. Évidemment, pour ça il faut être sûr de soi, il faut pas s'aventurer dans n'importe quel chemin, mais si on a eu les bons conseils en amont, c'est une
autre
option.
Et à ce moment-là, dans la clause bénéficiaire, on précise sur le contrat elle est déposée chez
l'assureur. Exactement.
En plus, ça permet souvent de la modifier une seule fois pour plusieurs contrats si on a décidé de mettre la même. Malgré tout, il faut passer le mot aussi au conseiller que pour une bonne relation client, c'est peut-être bien d'écouter le client.
Eh bien oui, bien sûr, commençons par ça.
Ça va être dans l'intérêt de tout le monde, hein, on l'a rappelé au milieu de l'interview.
C'est du business aussi, la relation client. On ne sait pas que vendre des contrats, c'est suivre ses clients et être capable d'aller les voir. On le voit, Allianz, un de nos clients qui travaille beaucoup sur cet axe-là, il est en train de changer un peu la donne parce que ses conseillers sont équipés de technologies qui leur permettent d'être à l'aise. Et ça, un acte juridique de conformité pour le client. On va le voir en lui disant « Je suis pas là pour vous parler business ». Et évidemment, à la fin de l'entretien, quand on a revu la clause et que le client est satisfait, on peut lui reparler business.
C'est beaucoup plus facile
comme ça.
Merci beaucoup Virgile. Virgile Delporte, pardon, et Testamento donc dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt.
Merci Cédric.
C'est la fin donc de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera la dernière émission avant la trêve des confiseurs, comme on dit, où on essaiera de dresser pas mal de bilan, bien évidemment, de cette année 2024. Je vous donne rendez-vous, bien évidemment, donc mercredi prochain.
Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.